Grand Angle sur Radio Orient.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace le Hamas de conséquences qu'il ne peut imaginer s'il ne libérait pas les otages toujours captifs à Gaza en plein blocage des négociations sur la suite de l'accord de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu fragilisé dans la bande de Gaza après la suspension de l'aide humanitaire par Israël. Israël a menacé de conséquences supplémentaires si le Hamas n'acceptait pas d'étendre la première phase de l'accord de cessez-le-feu. L'analyse de David Rigoulero, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de la région du Moyen-Orient.
En principe, à l'issue des 42 jours de la première phase, qui a vu la libération de 33 otages, 25 vivants et la restitution de 8 corps, il y avait dans le courant de cette première phase, normalement, le lancement de négociations à partir du 16e jour pour définir les modalités de la deuxième phase. En sachant que ce qui était prévu théoriquement pour la deuxième phase, c'est la libération des derniers otages et la remise des derniers corps, avec la mise en œuvre potentielle d'un cessez-le-feu pérenne associé à un retrait supposé de Tsahal de l'enclave. Et c'est bien là que le bât blesse, parce qu'en réalité, de toute façon, chacune des deux parties savait que ce serait très difficile à mettre en œuvre. Et comme ça, les modalités n'ont pas négocié, on arrive aujourd'hui, enfin à l'issue de la première séquence, dimanche soir, sur l'impossibilité effectivement de démarrer la deuxième phase, parce que les lignes rouges des deux parties constituent une hypothèque justement sur cette mise en œuvre. Chacun se renvoyait la responsabilité, alors notamment le Hamas renvoyant la responsabilité à Israël, le Hamas se disant prêt à poursuivre, à mettre en œuvre cette deuxième phase, à ceci près que les modalités n'ont pas fait l'objet de négociations durant la première, c'est bien le problème. Et du côté d'Israël, il n'est pas question de valider le principe a priori d'une cessation définitive du cessez-le-feu qui impliquerait le retrait de l'enclave. D'ailleurs, Israël a maintenu ses troupes au niveau du corridor de Fidalefi, à la frontière avec l'Égypte, dont il n'entend pas se retirer. Et donc, on voit bien que c'est une impasse.
On s'en souvient, lors de la première phase, Donald Trump, le président des États-Unis, avait affirmé qu'elle avait été imposée par la force. Aujourd'hui, ce ne sont bien entendu pas les mêmes données pour la deuxième phase.
Les données n'ayant pas fait l'objet de négociations dans leur modalité, il y a l'impossibilité de mettre en œuvre cette deuxième phase, qui était prévue effectivement une nouvelle période de 42 jours. Faute de mieux, Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial du président américain, a proposé une offre de compromis qui théoriquement est permise par deux clauses, la clause 8 et 14 de l'accord initialement validé le 19 janvier, prévoyant la poursuite d'un cessez-le-feu temporaire si les négociations ne sont pas totalement rompues entre les deux parties, c'est-à-dire si les combats n'ont pas repris. Et donc c'est ce qui est proposé en réalité par le plan Witkoff, qui a été accepté d'ailleurs par Israël, et refusé par le Hamas, et c'est l'idée que justement il pourrait y avoir une prolongation de cette trêve, qui ne serait pas définitive et dont le caractère définitif resterait à négocier au cours de cette deuxième phase, qui comprendrait la période du Ramadan et de la Pessah et de la Pâque juive jusqu'en avril, et donc qui permettrait évidemment de ne pas bloquer le processus et de permettre potentiellement la libération des autres otages en deux fois, la moitié dès le début et la seconde moitié à la fin de la dite séquence s'il y avait un accord sur un cessez-le-feu pérennisé.
Les propos de Donald Trump qui souhaite déplacer la population de la bande de Gaza ont-ils eu un impact sur cette situation aujourd'hui?
Pas directement sur la situation du processus, parce que dès le 21 janvier, le président Donald Trump avait émis des doutes sur la faisabilité de la deuxième phase. Il avait dit qu'elle risquait d'être très compliquée à mettre en œuvre, donc il anticipait déjà le blocage actuel. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une pression maximale qui profite évidemment à Israël, qui maintient son intransigeance sur le fait qu'un des objectifs de guerre initiaux, c'est la disparition du Hamas. Or, c'est bien le problème, c'est que, et notamment au minimum son désarmement, ce qui est une ligne rouge pour le Hamas. Et on comprend le blocage, parce que évidemment, c'est un télescopage avec la problématique des otages, qui est lancinante pour le Premier ministre avec l'opinion publique israélienne. Donc, c'est surtout sur les PRA, en réalité, que la proposition spectaculairement scandaleuse du président Donald Trump a eu des effets, puisque ça a conduit les pays arabes, un peu toutes choses égales par ailleurs, comme les Européens sur la question ukrainienne, à devoir se réunir pour proposer une contre-proposition qui, justement, doit faire l'objet d'une évaluation pour se substituer éventuellement à celle de Donald Trump. Et on voit l'enjeu, évidemment, que ça implique.
David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de la région du Moyen-Orient. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce numéro de Grand Angle.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.